Nom de Dieu. Bonjour et bienvenue dans l'Éclectique Show. Ce mois-ci, en fait, pour le mois de juin, un éclectique assez particulier. C'est pas vraiment une suite d'un épisode tout à fait normal. C'est un épisode, comme en France, vous dites, des crossovers, je pense. Un mélange de plusieurs émissions, en fait. Vous avez la quintessence des podcasts sur le life hacking et la productivité en une émission, cette fois-ci, et avec un sujet particulier qu'on vous expliquera par la suite, mais... D'entrée de jeu, j'aimerais introduire les deux collaborateurs qui vont faire l'émission avec moi. Alors, la première, je me suis fait des petites notes, des petits cartons. La première, je l'ai décrit ainsi, celle qui améliore votre organisation personnelle et professionnelle pour gagner en sérénité et en productivité. J'ai nommé Priscille de ProductiveU. Bonjour Priscille.
Bonjour Matt.
Et la deuxième personne, j'ai fait aussi son petit carton, Michael, le rédacteur de Moptimise du site de développement personnel et de professionnel et qui vous donne aussi des petites astuces sur les nouvelles technologies, Michael Paquet de Moptimise. Bonjour à toi.
Bonjour Mathieu, bonjour Priscille.
Bonjour Matt, bonjour Mika, tout va bien?
Oui, oui, tout va bien. Alors là, c'est l'émission pour ceux qui vont nous écouter. Alors, elle va être diffusée sur Moptimise, elle va être sur ProductiveU, puis elle va être sur l'Eclectic Show. Alors, bonjour à chacune des communautés, si vous ne me connaissez pas. Michael, pareil, et Priscille aussi. Alors, on va faire une émission particulière cette semaine. Ce mois-ci, on a décidé de prendre un sujet qui est... immuable, qui est d'intérêt public et national et qui est d'intérêt dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire le thème sera le changement. Et on a découpé l'émission sur trois thématiques par rapport au changement, alors qui reviennent beaucoup dans le life hacking, le changement au niveau professionnel, le changement au niveau personnel et le changement au niveau tech et interopérabilité. Alors on va commencer par la première tranche qui a été tirée au sort par les juges Deloitte et Touche avant l'émission. Priscille a été nommée pour animer le premier dossier, les changements professionnels. Et puis quand on s'en est, quand on s'est parlé la première fois, parce que je voulais qu'on fasse une émission les trois ensemble, tu nous as raconté une anecdote, et puis c'est ça qui a comme l'idée, qui a donné l'idée à l'émission du thème, en fait, pour le changement. Alors voici, je te passe la main, Priscille.
Merci Matt. Et effectivement, quand on a préparé cette émission, Tu m'as fait gentiment venir sur le thème sur lequel tu voulais travailler, avec beaucoup de doigté, je dois dire, sur le thème du changement, puisque très récemment, donc, j'ai changé de métier, d'entreprise, et que je vous expliquais à tous les deux les nombreuses péripéties que ça me faisait avoir, tous ces changements que j'avais choisis, hein, parce que là, pour le coup, c'est un changement tout à fait volontaire de ma part, et puis tous les impacts que ça pouvait avoir dans ma vie. Alors c'est des détails, hein, peut-être pour certains, mais moi j'ai changé d'outil de travail, j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de téléphone, parce que maintenant j'ai un Windows Phone que j'arrive toujours pas à faire marcher au bout de 4 mois.
Mais non, ça va bien aller un jour, tu vas comprendre. Mais ce jour où tout va bien aller avec ton Windows Phone, où tu auras trouvé tes marques et ainsi de suite, Microsoft aura décidé de l'abandonner.
Remarque, c'est bien toi qui m'as dit qu'avec ce téléphone-là, j'allais être super productif parce que du coup, je pouvais rien installer dessus.
Ouais, bon. Mais il fallait pas le dire devant tout le
monde. Bon, c'est pas grave, on le coupera. Donc effectivement, c'est pas mal de changements et ça fait, même si c'était un changement choisi, bah, ça fait quand même un petit peu peur parce que c'est une perte du confort par rapport à ce que je faisais depuis 10 ans. Je suis sortie de ma zone de confort et c'est des choses qui font peur toujours. Hein.
Et puis toi, c'est typiquement un changement de carrière ou carrément un changement d'employeur? Alors, parce que tu gardes le même emploi.
Non, je change aussi d'emploi un peu. Bon, ça reste quand même dans le même secteur. Hein. Je suis pas complètement perdue, mais je change radicalement d'entreprise, de culture d'entreprise. Je passe d'une entreprise franco-française à une entreprise qui est une multinationale. Je parle anglais toute la journée. Donc voilà, enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de changements d'un coup. On perd ses repères, on perd ses habitudes, et c'est toujours un petit peu compliqué à gérer, même quand on s'y est bien préparé. parce que dans mon cas, bah, comme j'avais démissionné, j'ai eu 3 mois de préavis, donc pendant 3 mois, j'ai vraiment préparé les choses. Mais malgré tout, bah, c'est quand même gros changement dans la vie.
Alors, au niveau des changements, qu'est-ce qui t'a choqué le plus? La culture d'entreprise, qui est le plus difficile à revoir? Son réseau à l'interne de l'entreprise? Qu'est-ce qui change le plus au niveau professionnel quand on change comme ça?
Il y a un peu tout, hein, pour le coup. Là, la culture est radicalement différente. Ça prend du temps de se reconstituer un réseau. Et puis, faut réapprendre les codes de l'entreprise, parce que chaque entreprise a sa façon de fonctionner. Et puis,
son langage,
ouais. Le réseau, si tu veux. J'étais pendant 10 ans dans ma société précédente. Quand on me posait une problématique, en quelques secondes, je me disais, tiens, un tel, il va avoir l'information. Là, aujourd'hui, j'en ai aucune idée de qui va me donner l'information, donc je vais mettre des heures à trouver. Enfin, toi, tu repars vraiment de zéro, et puis en plus, moi, je repars aussi de zéro au niveau technique, parce que comme je disais tout à l'heure, donc j'ai changé de téléphone et je comprends rien. Depuis 15 ans, je travaillais sur Lotus Notes, je passe sur Outlook. Donc là aussi, gros changement. Bon, alors même si j'ai fait des petites formations pour gérer, bon ben voilà. J'utilisais beaucoup Evernote dans ma précédente société. Là, je peux plus l'installer sur mon nouveau PC. Donc, t'as vraiment beaucoup de choses, si tu veux, qui changent. Et puis après, c'est une accumulation de détails, entre guillemets. Dans ma précédente société, j'avais une voiture où j'avais plus de clés. J'avais une carte qui était en permanence dans mon portefeuille, dans mon sac à main, et j'avais jamais besoin de prendre ma clé. On m'a changé de voiture parce que j'ai changé d'entreprise. Là, j'ai une clé, mais le premier mois, ça a juste été l'enfer, quoi. Je laissais la voiture au parking avec la clé sur sur le contact.
Est-ce que tu l'éteignais au moins?
Oui, quand même. Okay. Mais si tu veux, mais c'est, toi, c'est des petits trucs de blonde, hein, peut-être qu'on peut se dire. Mais c'est une accumulation de petites choses comme ça où tu changes plein de choses en même temps. Et il faut reconstruire un peu ses habitudes. En fait, il faut réajuster ses habitudes à son nouvel environnement. Parce que bon, moi je l'ai choisi, mais quand on change professionnellement, et parfois on le choisit pas, si on se fait licencier, on change d'entreprise, c'est pas facile non plus. Et je pense que ben, le bon état d'esprit, c'est effectivement de changer sa façon de réfléchir et puis son angle d'attaque, plutôt que d'essayer de faire changer ce qui ne peut pas être changé, hein, ce qui est immuable autour de nous.
Et puis, un petit truc, as-tu développé des petits trucs ou des nouvelles façons de penser? Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui est le plus important quand on change comme ça d'entreprise? Est-ce que c'est de se familiariser rapidement avec les outils, familiariser rapidement avec les personnes, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Pour résumer, en fait, moi, je suis un homme et puis je peux juste me focusser sur une chose à la fois. J'imagine que toi, tu as été capable de faire plusieurs choses concurremment.
Non, parce que tu sais bien que quand on fait du life hacking, on sait que le multitasking, ça ne marche pas bien. Donc, il faut se focaliser sur un sujet.
Et quel a été le tien?
En fait, moi, j'en ai mené plusieurs en parallèle, mais pas en même temps. Hein, l'un après l'autre. J'ai eu une grosse période de ce qu'on appelle intégration où j'ai visité plein de gens dans l'entreprise, plein de sites différents. J'ai rencontré des tas de gens pendant un mois. J'ai fait que ça. Donc, je me suis concentrée là-dessus. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, tout se fait maintenant en anglais. Donc, non seulement t'apprends une nouvelle entreprise, une nouvelle culture, mais en plus, c'est pas ta langue maternelle. Donc, tu sais, là, t'as déjà le cerveau qui est... Je peux te dire que le soir, quand je rentre, je dors bien parce que je suis complètement épuisée. Après, au fur et à mesure, j'ai découvert un peu les outils de travail qui sont complètement différents de ceux que j'avais avant. Donc ça aussi, il faut les mettre en route. Mais là, tu vois, tu tâtonnes un petit peu parce que un truc tout bête. Bon, tu t'ouvres ta boîte mail la première fois. Donc premier jour où je suis arrivée, je devais avoir déjà, je sais pas, 300 mails qui m'attendaient.
Bienvenue.
En fait, l'annonce de mon arrivée a été faite un mois et demi avant que j'arrive. Donc les gens ont commencé à m'écrire alors que j'étais encore pas arrivée. Mais bon, bref. Et là, grande question, tu sais, comment tu tries tes mails? Tu viens d'arriver, tu connais pas encore tout le cadre, les dossiers sur lesquels tu vas travailler. Est-ce que tu vas tu classes plutôt par personne, par sujet, par ceci, par cela. Et en fait, tant que t'as pas un peu vu comment l'entreprise elle fonctionnait et comment ton poste va évoluer, bah, tu sais pas bien, tu sais comment classer tes mails, parce que moi je suis quelqu'un qui classe les mails. Bah voilà, il faut tâtonner un petit peu. Tu peux pas figer les choses tout de suite si tu veux. Faut faire des petites choses d'attente et puis voir plus tard. Bon, en plus moi je découvrais donc la nouvelle messagerie, donc tu tâtonnes un petit peu, puis t'ajustes en fait au fur et à mesure de ce que tu apprends. Mais comme dans tout nouvel outil, hein, on cherche un petit peu la meilleure organisation jusqu'à trouver quelque chose d'à peu près stable et qui a l'air de correspondre au nouveau contexte.
Puis c'est vrai que en fait le courriel est rendu tellement un outil de travail. J'avais pas pensé à ça. Le courriel est tellement un outil de travail important maintenant dans plusieurs strates d'emploi que c'est vrai que la chose la plus difficile c'est de trouver, de déterminer quels sont les courriels les plus importants. Moi j'aurais tendance à trier les patrons en premier ou tes grands clients pour une entreprise. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire ou faut vraiment se les taper un par un?
Bah, je dirais c'est vraiment ça va dépendre vraiment dans quel secteur tu travailles. Moi j'ai essayé de faire à la fois ce qui venait de mon client, ce qui vient de l'interne, et puis de faire des sous-catégories. En plus je suis dans une entreprise, moi il marche beaucoup par sigle si tu veux. Moi l'entreprise où j'étais avant, on écrivait, quand on mettait le titre d'un mail, ça se comprenait, si tu veux, entre guillemets. C'était une petite phrase, ou tu vois. Et là, ils vont plutôt travailler avec des codes, FY machin, avec un numéro. Donc, si c'est les filles de la facture, elles vont mettre carrément un numéro de facture en en-tête. Alors moi, ça me dit rien du tout, un numéro de facture dans une en-tête de mail. Tu sais, je sais pas combien de comptes de facturation à gérer. Toi, c'est pas forcément intuitif, c'est le cas de le dire. Voilà, tu travailles avec plein de gens en plus qui sont dans des pays différents et qui ont des façons de s'organiser et puis de nommer par exemple les mails qu'ils envoient. Donc, faut essayer un petit peu de s'adapter. Je suis allée les voir, donc je suis allée leur dire bon ben écoutez, je suis nouvelle, je comprends pas forcément toujours tout, donc si vous pouviez être un tout petit peu explicite dans vos titres de mail ou autres pour que j'arrive à répondre plus vite ou moins les classer, les prioriser. Mais c'est pas toujours simple, parce que comme je te dis, moi je suis sur plusieurs pays, avec des directions différentes, donc un peu chaque service, tu sais, a sa petite façon de travailler, et tu peux pas leur demander de s'adapter, enfin tu vois, ils gardent quand même leur base. Non. Donc c'est pas forcément toujours évident, donc je tâtonne un petit peu, et puis heureusement en début d'année j'avais découvert les bienfaits du bullet journal, qui est un typiquement papier pour le coup, et ben je dois dire que je l'ai mis en place au bureau. Pas à 100%, mais je l'utilise beaucoup comme ça. Du coup, mes petits carnets Evernote sont devenus des carnets bullet journal. Parce qu'en attendant d'avoir vraiment trouvé un système automatisé, entre guillemets, ou digital, qui soit vraiment pointu par rapport à mes nouvelles fonctions, bah, le papier, ça me sauve. Voilà, c'est tout. Le papier, ça me sauve. C'est peut-être un peu plus lent, un petit peu différent. Mais moi, ça me permet de m'en sortir comme ça, en attendant vraiment de trouver l'organisation optimale.
Mais tu me fais bondir sur une chose, je suis en train de lire la biographie d'Elon Musk en ce moment, et puis dans une de ses entreprises, il remarquait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de la communication. Et puis lui, ce qu'il a identifié, c'est les acronymes, ou ce que tu appelles les sigles. Ouais. Et il a envoyé, on l'a dans le livre, il a envoyé un message à tous, à toute son entreprise, pour proscrire au maximum les acronymes. Lui avait identifié ça comme une grosse perte de temps à l'entreprise, parce que étant donné qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel dans son domaine, il avait identifié que ça faisait perdre beaucoup de temps aux nouveaux. Et puis, ça avait aussi des problèmes de communication, parce que la justesse du message, on le perdait, parce que certains, des fois, au lieu de chercher l'acronyme, l'imaginaient ou pensaient que c'était tel ou tel sujet. Et en bout de ligne, ben c'est ça, il y avait des gros problèmes de communication, puis il a commencé à le proscrire. C'est quelque chose aussi que moi, tu vois, je suis au niveau de la tech ou de l'événementiel web, et je travaille beaucoup avec des informaticiens qui ont aussi cette fichue manie de tout vouloir raccourcir ou faire des acronymes. Puis c'est drôle parce que finalement, c'est pas juste dans la tech, c'est un peu dans tous les domaines où on a ce biais. Moi, je considère que c'est un biais. Oui, il y a des acronymes qui sont utiles pour le langage, mais c'est des acronymes communs qu'on peut tous comprendre. Mm-hmm. Quand on commence à faire des acronymes et des phrases d'acronymes, là, il y a un gros problème.
Ah oui, mais moi, c'est absolument... c'est faramineux. Hein. On a des drivers partagés où on met les comptes rendus de réunion, des choses comme ça. Et la première fois que je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fichiers, quoi? Je comprenais pas les titres des fichiers. Et on me dit, tiens, on a mis... les minutes de la réunion, elles sont dans ce répertoire-là. Mais, alors, j'étais complètement perdue. Alors j'avais, en fait, tous les titres, c'est les deux premières lettres, c'est le début du nom du client. En plus, le compte rendu, ça devient MOM, Minute of Meeting. Faut le savoir, tu vois. Ensuite, on a un autre sigle qui correspond à notre service. Un troisième sigle pour la version. Après, t'as les initiales de la personne, mais toi, comme tu la connais pas, bah, tu sais pas que c'est ses initiales. Et puis une date. Alors là, va comprendre que c'est les minutes de la nuit de la réunion de la semaine d'avant. Enfin, je veux dire. Comme ça, quoi. Donc, c'est incroyable. Et je reviens sur les mails. Moi qui ai l'habitude de travailler en priorisation de mails avec une boîte où je vais mettre ce qui a traité maintenant, plus tard, etc. Quand t'as un sigle dans le titre, tu sais pas dire si c'est urgent, pas urgent, si tu dois le traiter. Donc, t'es obligé de le lire tout de suite. Et tu perds énormément de temps, quoi.
Ouais, tout à fait. Dans le fond, là, ce que j'entends, là, les bonnes démarches, là, ça serait de recréer son réseau, alors d'identifier les personnes qui ont un impact, c'est ce que tu as fait, de comprendre le langage entreprise, la nomenclature de l'entreprise, dans le nommage de toutes sortes de choses, alors des courriels, des fichiers, des choses comme ça, quand on est au niveau numérique, ce serait vraiment les trois premiers points importants pour se faire la main. Outre le fait de s'habituer aux outils, chose qu'on peut des fois avoir la chance de pouvoir faire avant, en amont, en se les installant. C'est vraiment les trois points que je comprends que t'as dû travailler au début.
Oui, c'est exactement comme ça que je m'y suis pris. Et puis alors après, effectivement, il faut s'adapter. Comme je l'ai dit, moi, c'est un changement que j'ai souhaité. Donc, je subis pas quelque chose. Je l'ai souhaité. Donc, l'important de garder la bonne attitude d'esprit, même si parfois c'est un peu décourageant. Hein, tu sais, je rentrais certains soirs, j'étais pas sûre d'avoir tout compris dans toute la journée. Mais après, tu te dis, voilà, il faut y aller, il faut travailler dur. De toute façon, tout le monde sait qu'une prise de poste, même parfois en interne dans sa société, quand tu changes, c'est pas forcément évident, faut s'accrocher. Et puis dans quelques mois, je veux dire, je serai comme un poisson dans l'eau. Et puis après, il faut regarder après les bénéfices du changement. Pourquoi est-ce que tu as voulu changer à la base? C'est vraiment identifier pourquoi tu veux le faire. Et puis si jamais tu as un petit coup de mou en te disant « c'est dur », tu te raccroches à ça en te disant « mais voilà, j'ai voulu moi changer d'entreprise à cause de ça, c'est ma raison profonde, donc il n'y a pas à tortiller, quoi. Je suis là et je suis bien et je suis content de l'avoir fait, même si c'est dur ».
Et puis dans les notes d'émission, tu as mis « changer votre travail au lieu d'en changer ».
Alors, que tu voulais dire, alors en fait, je crois que c'est pas moi qui l'ai mis là. Je pense que c'est Mika.
Ça, c'était
alors
moi.
Justement, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que moi, je l'avais lu cet article-là. Bah vas-y, parle-en et puis je te ferai part de mon expérience par rapport à cet article.
Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que souvent on dit quand on n'est pas content, on a envie de changer de travail. Et j'aime bien l'approche de se dire plutôt que de changer de travail, on peut modifier celui qu'on a. Le faire bouger, le faire évoluer pour que ça nous corresponde plus. Et donc l'article liste quelques petits points. Un des premiers, c'est déjà commencer par soi-même, arriver à se connaître et à se comprendre pour pouvoir prendre un petit peu de recul et comprendre pourquoi le poste ou l'emploi dans lequel on est nous plaît plus trop. Il faut se poser la question de d'où ça vient, de quelle partie de notre personnalité. Est-ce qu'on est plutôt d'un tempérament pessimiste et donc dès que quelque chose va pas aller, on va le prendre de façon assez vite négative et dire oh là là, ça va pas, il faut que je change de travail. Ou alors est-ce qu'on est plutôt optimiste et si on est optimiste, à partir du moment où on commence à se dire ça va pas, c'est que vraiment ça va pas et qu'il est peut-être question d'en changer. Ou alors de changer les choses de façon assez radicale dans son travail actuel.
Oui, tout à fait. Et puis un petit truc pour ceux qui pensent à changer de travail, le meilleur moment pour changer d'emploi, c'est quand vous en avez encore un.
Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Et moi, je l'avais lu, là, cet article-là, il y a quelques temps, parce qu'il est assez ancien, je crois, cet article-là.
Oui.
Et ouais. je l'avais lu justement bien avant de changer d'emploi. Et j'ai appliqué quand même. Et c'est vrai que ça marchait plutôt bien. Moi, j'avais réussi à réorganiser un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai que j'avais travaillé de façon après, j'avais un peu travaillé sur une autre méthode qui faisait qu'on, par rapport à son travail, il fallait lister la liste, c'est joli ça. Lister ses points forts, ses points faibles, enfin ses valeurs, et puis essayer de voir ce qu'il y avait dans son travail qui répondait, hein, qui était en résonance avec tout ça, et puis voir s'il y avait des manquements, comment est-ce qu'on pouvait soit les contourner, soit les compléter dans sa vie personnelle, etc. Et très sincèrement, moi, j'ai mis ça en place pendant un bon moment avec mon ancienne entreprise, en me disant, bon, voilà, c'est peut-être moi, je vais essayer de prendre les choses dans un autre angle. Mais ça marche jusqu'à une certaine limite. Et moi, en particulier, ce qui coinçait dans mon ancienne entreprise, c'était les valeurs. J'étais plus du tout alignée en termes de valeurs avec mon entreprise. Et quand ça touche les valeurs, t'as beau essayer de réorganiser ton poste de travail ou ton travail, t'es toujours en déconnexion. Et c'est pour ça que j'ai souhaité changer, parce qu'au niveau des valeurs, on n'était plus du tout en phase.
Ouais. Bah, c'est vrai que l'article dit il faut trouver un sens à ce qu'on fait. Ça aide à être satisfait de son travail. Un des autres éléments, alors je vais commencer par une petite question. Quand vous êtes devant votre assiette et qu'il y a quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous aimez moins, vous commencez par quoi, Priscille?
Moi, je ne mange pas ce que j'aime pas.
Et Mathieu?
Moi, je commence toujours par ce que j'aime le moins en premier. Alors, exemple, je mange une pizza, je vais manger la croûte, les pépéronis et tout ça, et je me garde le fromage à la fin.
D'accord, donc après, l'article dit, voilà, essayez de réfléchir à des choses, là, je l'ai pris très simple et très très bête, mais voilà, essayez de réfléchir des fois dans ce que vous avez à faire comme tâche dans votre travail, celles que vous aimez, celles que vous aimez moins. Et ben les faire dans un ordre ou dans l'autre pour justement pouvoir vous aider, vous motiver pour pouvoir quand même faire votre travail. Donc soit commencer par celles que vous aimez le moins pour les faire le plus vite possible et après avoir du temps dans votre journée pour faire le reste de ce que vous aimez faire. Ou dans l'autre sens, commencer par ce que vous aimez faire pour vous donner de l'énergie, de la motivation pour pouvoir faire le reste. Donc cette façon-là était assez amusante pour dire... changer un petit peu la façon dont vous travaillez en fonction de vous, en fonction de vos envies. Il y a changer les personnes avec qui on interagit.
Oui,
c'est quelque chose aussi de très très important.
Oui, c'est essentiel pour deux aspects. Alors pour vous-même, pour avoir une autre perception, parce que notre cerveau est ainsi fait que quand on a une perception sur l'entreprise négative ou positive, on a tendance à aller vers les gens qui ont la même perception que soi. Ce qui fait que ça nous confronte, on est confortable là-dedans. Notre cerveau aime le fait d'être confortable. Alors, le fait d'aller voir d'autres personnes, ça va vous donner, ça va vous confronter certes, mais ça va vous donner une autre facette de vos croyances par rapport à l'entreprise. Un. Et deux, c'est par rapport aux autres, au regard que les autres ont vers vous, parce que on se le cachera pas, si vous êtes associé à tel ou tel type de, exemple, chargé de projet ou tel type de personne, ben c'est sûr que on va l'entreprise ou vos clients vont tendance à vous donner les mêmes contrats ou les mêmes responsabilités parce que vous êtes toujours au même. Tandis que quand vous changez un peu de réseau à l'intérieur de l'entreprise, ça va changer la perception des autres et même la vôtre.
Ah oui, c'est clair. Et puis si on est en plus entouré de gens qui sont un peu négatifs par rapport à une situation, si on les côtoie au quotidien, on s'auto-alimente là en permanence, on ressasse. Et de voir un autre point de vue, un autre angle de vision ou d'attaque avec d'autres gens, effectivement, on remet aussi en cause ce qu'on pourrait considérer comme acquis ou comme réel en voyant un peu autre chose.
Bah un des derniers points de l'article, c'est de résister à la tentation de se plaindre. Déjà parce que c'est quelque chose de contagieux, donc ça veut dire que les gens autour de soi vont avoir tendance aussi à se plaindre. Et le deuxième aspect, c'est de dire attention à qui vous vous plaignez aussi, parce que vous ne savez pas à qui ça sera rapporté en interne dans l'entreprise, et ça peut aussi jouer des tours pour le futur, votre attitude et votre façon de faire. Et après, on en revient un petit peu à ce qu'on avait dit au début et ce qui t'est arrivé, Priscille. Le dernier point de l'article, c'est quand même de garder les options ouvertes Et voilà, quand à n'importe quel moment, en gros, avoir son CV de près, avoir son profil LinkedIn éventuellement mis à jour. On ne sait jamais quand il y aura une opportunité qui viendra s'ouvrir devant nous pour, eh ben, peut-être finalement quand même changer d'entreprise ou changer de poste dans l'entreprise.
Ça, c'est tellement un bon truc. Même si vous n'avez pas l'intention de changer d'entreprise, même si vous n'avez pas l'intention de changer de poste, mettez à jour votre CV, toujours, constamment, une fréquence régulière. Ça va vous faire prendre conscience de ce que vous avez fait. Peut-être que si vous avez des objectifs de carrière, ça va vous faire prendre conscience de votre atteinte ou non de ces objectifs de carrière-là. Je pense que le CV, c'est le bon outil pour vous guider sur le présent et le futur. Et puis, comme dit Michael, l'outil pour changer est prêt. Alors, si un changement arrive, une opportunité, ça des fois, on les contrôle pas, on les sait pas d'avance, l'outil est prêt et vous pouvez donner votre CV. Par contre, dites-le pas à tout le monde, mon CV est prêt.
En plus, maintenant, avec LinkedIn, on met son CV à jour, il est visible par tout le monde. Alors moi, j'avais eu un truc que m'avait expliqué une DRH il y a très très longtemps, j'étais en début de carrière et on n'avait pas encore LinkedIn. Elle m'a dit, alors de la part de la DRH de l'entreprise dans laquelle j'étais, elle m'a dit, écoute Priscille, toute ta carrière, toute ta vie, tous les ans, tu dois te forcer à passer au moins un entretien d'embauche, même si tu veux pas partir. Et donc c'est ce que je fais. Donc déjà, du coup, mon CV, il est toujours à jour, mais surtout, ça entraîne à parler de soi dans un entretien, parce que l'entretien d'embauche, mine de rien, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Et le fait de le faire ne serait-ce qu'une fois par an, déjà, ça permet d'affiner un petit peu, pratiquer. Voilà, de reformuler, de revoir un petit peu son CV. Et puis, ce qui est pas mal non plus, même si maintenant, il y a LinkedIn qui pourrait aider ça, on reste un peu dans les tablettes, entre guillemets, des recruteurs, parce que c'est souvent des cabinets de recrutement ou des choses comme ça qu'on va plutôt cibler pour faire ce type d'exercice. Et puis du coup, voilà, ils nous voient passer régulièrement ou ils voient passer notre CV ou des choses comme ça. Et le jour où on en a besoin, ça va beaucoup plus vite pour trouver un emploi.
Autre stratégie que moi j'ai développée et qui peut être aussi intéressante, ne sous-estimez pas les congrès ou les formations ou les colloques. Même si vous vous sentez au top de vos connaissances, même si vous vous sentez le meilleur dans votre domaine et peut-être que vous l'êtes, le réseau, tout comme préparer son CV ou faire une entrevue par année, le réseau est ultra important dans votre domaine si un jour une opportunité se présente, de changer.
Moi, typiquement, là, mon emploi, j'ai postulé à rien du tout. C'est un ancien collègue d'il y a fort longtemps. Qui voyait régulièrement passer des publications que je partageais sur LinkedIn, parce que je suis assez active sur LinkedIn, j'essaie de poster un truc au moins par jour. Et du coup, on s'était croisés il y a une dizaine d'années, et puis comme il voyait régulièrement mon nom apparaître dans son fil d'actualité, il a eu l'idée de regarder un peu plus en détail mon CV. Et puis c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, mon CV correspondait à une recherche qu'il avait en cours, et il m'a contacté comme ça. Donc c'est le réseau, c'est super important maintenant. C'est super important.
Tout à fait.
Alors
moi j'ai développé
vas-y.
Mais c'est ça, au fil du temps, j'ai développé un petit truc pour savoir si l'emploi que vous convoitez ou que vous pensez est fait pour vous. C'est la technique des 3 A. Alors c'est assez simple, ça consiste A pour amour, pour argent ou avancement. Moi, encore une fois, j'avais déjà parlé à des responsables de RH qui me disaient que cette technique-là est quand même assez bonne pour juger d'un futur emploi. Alors, soit il faut absolument atteindre dans un nouvel emploi 3 des objectifs ou au moins 2. Pourquoi? Parce que si vous avez l'amour et l'argent, vous êtes comblé au niveau professionnel et vous avez pas nécessairement besoin d'avancement. Si vous avez l'amour, là, on le traduit par passion du travail. Si vous avez l'argent ou l'avancement, C'est sûr qu'à un moment donné, l'amour va venir parce que l'avancement va faire que la passion va arriver. Et puis, si vous avez la passion ou, en fait, l'amour et l'avancement, automatiquement, avec l'avancement, vous allez peut-être penser à avoir plus d'argent à un moment donné. Alors, c'est un petit truc quand même assez simple. Mémotechnique, les 3 A, amour, argent, avancement. En avoir au moins 2. Si vous en avez 3, c'est merveilleux. Allez tout de suite postuler et prenez le poste. Mais... au moins 2 de ces 3-là vont être capables de vous guider pour savoir si c'est un bon changement pour vous.
C'est bien ça, je connais. C'est vrai, quand j'ai vu ça dans les notes de l'émission, je me suis dit, c'est quoi ce truc? D'accord, c'est bien avec l'explication en fait. C'est pas idiot du tout, du tout, du tout. Alors, je vous avais partagé aussi là dans les petites notes de préparation un article qui est un podcast en fait de Laura McLellan, The Productive Woman, vous connaissez peut-être, où elle a traité des changements et puis de ce qui pouvait nous aider à aller au-delà du stress que ça pouvait générer. Donc je vais pas lire tous les points parce qu'il y en a pour assez long, puis on a fait déjà un bon parti sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs angles, outre la bonne attitude d'esprit, essayer de voir les côtés positifs, profiter, se dire que quand on sort de ses limites, en fait, on se développe, on continue à se développer, on continue à évoluer, on continue à développer son expérience. Il y a plein de choses comme ça, il faut être patient aussi. C'est vrai que des fois, moi, je trouve que c'est ultra frustrant, ouais. Parce que il y a des choses, je me dis, ah, mais d'habitude, je le ferais super vite, ce truc-là, et là, eh ben non, je le fais pas vite. Donc, il faut l'accepter, quoi, parce que sinon, on est complètement stressé et agacé. Et donc, prendre du recul, prendre soin de soi, et puis, il y a aussi composer avec la nouveauté et l'ancien, parce que, effectivement, aujourd'hui, moi, j'apprends des nouvelles choses, et je dois utiliser des nouveaux outils, mais ça veut pas dire que tout ce que j'ai fait avant, je peux le jeter. Donc, petit à petit, en fait, je rajoute des choses de mon ancienne vie, de mon ancienne organisation, de mes anciennes habitudes qui viennent s'incrémenter et en fait, c'est plutôt pas mal. Et puis, un dernier petit point par rapport au changement. Ce que j'ai appris récemment en formation, c'est qu'en fait, changer, ça nous fait travailler notre plasticité neuronale, c'est-à-dire la possibilité de créer des nouvelles connexions dans notre cerveau entre les neurones. Et ça contribue à maintenir un cerveau plus jeune, et ça surtout, ça va contribuer à ralentir l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut changer tout le temps.
effectivement. Alors, on avait d'autres points pour les changements professionnels, mais dure 3 heures, on va switcher tout de suite. Oh, à l'autre thème. Alors, on avait dit professionnel. Deuxième point, c'était les changements personnels. Michael, tu avais mis plusieurs points. Le premier, c'est prendre conscience de ses habitudes ou de ses mauvaises habitudes dans les changements personnels.
C'est ça. Oui. Le but, avant de pouvoir changer quelque chose, il faut se rendre compte de ce qu'on fait, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et donc, une des bonnes façons, typiquement, si vous voulez arrêter le tabac, être sûr que vous buvez assez d'eau, que vous faites vos pas, c'est de suivre ces activités-là. Pour les pas, c'est facile. Il y a plein de bracelets maintenant pour mesurer le nombre de pas. Pour ce qui est du tabac ou de la consommation d'eau, il y a des applications si besoin ou un tableau Excel ou un bon vieux bloc-notes papier. À chaque fois que vous le faites, vous pouvez le noter pour pouvoir ensuite prendre le temps de vous rendre compte de votre consommation de tabac, de la peu de consommation d'eau que vous avez, par exemple, dans la journée. Et de ce fait, pouvoir vous dire, il faut que je change et il faut que je prenne des actions derrière pour pouvoir changer ça.
Ça pense, le changement personnel me semble plus facile lorsqu'on développe des habitudes. Hein. C'est un peu ça où tu veux aller, Mika?
Oui.
Alors, des habitudes grâce à des applications, grâce à une routine, hein, c'est quand même par là que ça peut passer. Il est faux de croire qu'il faut changer une chose à la fois. C'est pas vrai. Bien des études prouvent que votre corps, votre cerveau, à tout le moins, est capable d'en prendre plusieurs à la fois. C'est sûr que faut y aller avec intelligence. Si vous décidez de devenir un athlète et de faire le marathon de Boston demain alors que vous avez jamais rien fait, c'est sûr que c'est pas un changement que vous allez pouvoir faire automatiquement. Faut développer assurément des habitudes, des habiletés. Mais moi personnellement, les changements de vie, beaucoup, et vous allez me trouver très très geek nerd, mais je tiens un tableau Excel pour... Excel, pour moi, c'est comme ma vie. Je mets beaucoup, beaucoup de choses dans des tableaux, dans des tableurs comme ça. Et je tiens des graphiques et sur toutes sortes. Je vous dirai pas tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets. Et ça m'aide sur le long terme à développer des habitudes et à avoir une récurrence dans ce que je fais. Alors, Michael vous a parlé d'applications, il y en a plein, on peut vous en mettre dans les notes de l'émission. Il y a aussi les rappels, ça peut être super intéressant d'avoir, je sais toi Priscille, tu utilises les rappels dans iOS.
Alors moi j'utilise les rappels, mais pas forcément pour les habitudes, parce qu'en fait moi je m'étais rendu compte, je mettais plein de choses hein, sur les applications, avec tout un tas de rappels pour le sport, pour ci et pour là. Et en fait, c'est hyper simple de le switcher, hein, je l'ai fait. Ou alors on efface le rappel et puis on oublie parce qu'on fait autre chose. Et donc maintenant, pour tout ce qui est habitude, hein, j'utilise toujours l'application rappel pour un certain nombre de choses, mais pour tout ce qui est tracker d'habitude, je fais ça sur mon bullet journal. Je dessine mes petits tableaux et puis je colore les choses. Et puis pour bien voir, pour voir les jours où j'ai bien... je me suis bien couché de bonne heure, j'ai bien lu, j'ai bien fait du sport, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça. Donc là, je le mets vraiment sur un petit tableau coloré. Alors effectivement, c'est pas un fichier Excel, mais on pourrait très bien le faire dans un fichier Excel aussi. Et ça permet de voir vraiment. Et je me fais aussi des listes d'objectifs à atteindre et je fais des bilans toutes les semaines pour voir où j'en suis.
Pour ceux qui te suivraient pas dans un productivity view, en 2-3 minutes, le bullet journal, c'est quoi?
Alors, ça va être un petit carnet qu'on fait à sa façon. Enfin, je dirais, il n'y a pas de modèle unique. Un bullet journal, ça va être un petit carnet d'une taille différente, un cahier, un classeur, ce qu'on veut, dans lequel on va pouvoir créer des sections différentes. Alors, d'une part, il y a une partie sur tout ce qui est les listes de choses à faire. J'en parlais tout à l'heure, par exemple au bureau, moi j'utilise des listes de choses à faire avec un petit langage en fait qu'on se crée en disant une tâche c'est tel sigle, une réunion c'est tel truc, un appel téléphonique ça va être un autre signe, enfin voilà, tu fais un petit langage comme ça pour avoir ta liste de choses à faire pour la journée. Donc ça c'est le principe du bullet journal, et intégré à ça, tu peux aussi mettre tout ce qui est des listes tout court qui sont pas des to-do listes. Mais des listes, je sais pas moi, de films que tu veux aller voir, de livres que tu veux aller lire dans l'année, de personnes à qui tu veux rendre visite, d'activités sportives que tu veux faire. Et tu peux créer un tracker, donc comme tu le ferais dans Excel, hein, en mettant la liste des choses que tu veux suivre, les jours du mois. Et puis tu mets soit une petite croix, soit un petit truc qu'on colore. C'est un petit peu dans la liste, dans le suite de la chaîne de Seinfeld, tu sais, où il faut pas briser la chaîne, donc je mets une petite croix tous les jours. C'est un peu le même principe, sauf que là, tu vas pas forcément avoir 365 jours sur une même feuille, mais tu vas le refaire tous les mois. Mais donc, le bullet journal, c'est vraiment un truc papier, hein, c'est un carnet, c'est vraiment un carnet, un crayon, quoi. C'est vraiment basique comme organisation. Et moi, j'ai découvert ça en début d'année, c'est extrêmement puissant.
Et puis tu as fait un épisode là sur le sujet. On va mettre les liens vers ton épisode pour dans les notes de l'émission. Ouais. Super. Moi, évidemment, dans les changements personnels, j'aime ça avoir des trucs comme tantôt. Mon truc pour des changements au niveau personnel, c'est assez simple. C'est si vous apprenez quelque chose de nouveau, pour moi, c'est un bon changement. Parce qu'il faut des fois identifier les types de changements. Il y en a des mauvais, il y en a des bons. Évidemment, si ça vous apporte quelque chose de nouveau, si vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est meilleur pour votre santé. C'est sûr que vous pouvez l'identifier comme un bon changement. Il y en a d'autres qui, des fois, sont un petit peu insidieux et pour lesquels vous allez avoir de la misère à découvrir le bienfait du changement. Mais prenez toujours par principe que si vous apprenez quelque chose de nouveau ou si c'est meilleur pour votre santé, ben allez-y, le changement est bon pour vous. Et puis, de toute façon, c'est essentiel, comme disait pour Priscille, pour la plasticité de votre cerveau, de changer souvent de choses. Mais là, c'est bien important de faire attention aussi de pas faire du changement dans du changement. On va parler tantôt des au niveau techno et ainsi de suite. Des fois, on change pour changer et puis ça pas vraiment beaucoup de plus-value par rapport à ce que vous faites. Toi, Priscille, tu dis il faut être conscient du pourquoi on veut changer, trouver le pourquoi. Toi, c'est le pourquoi qui est intéressant.
Oui, parce que je pense que quand on a quand on rencontre des difficultés à mettre en place une nouvelle habitude, imagine, moi, j'essaye d'arrêter de fumer depuis longtemps. Je pourrais me dire, le tabac, ça tue. Voilà.
Oui, ou tu pourrais avoir des paquets de cigarettes avec des photos horribles.
Mais j'en ai, je te rassure, j'ai des photos horribles, on a tout en France, hein, on a tout. Mais malgré tout, il faut un pourquoi. Alors effectivement, le tabac tue, et oui, mais c'est comme toi tu disais tout à l'heure, toi c'est bon pour la santé. Effectivement, c'est mauvais pour la santé de fumer, donc il faudrait que j'arrête. Malheureusement, j'y arrive pas, parce que je suis pas encore arrivée au pourquoi vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme quand on veut perdre du poids, si tu veux dire faut que je maigrisse parce que l'été arrive et que dans tous les magazines on voit des filles filiformes, c'est pas une motivation suffisante parce qu'elle ne te touche pas profondément suffisamment pour que sur le long terme tu mettes en place des habitudes qui vont vraiment changer. Et donc il faut vraiment creuser. Et donc j'avais mis en lien deux articles, tu pourras peut-être les mettre dans les notes, on va pas les survoler parce qu'ils sont très longs. Pour trouver la raison, et c'est ce qui va en fait nous motiver quand on va avoir des moments de faiblesse dans la poursuite de ses habitudes, parce que des fois on se décourage. Imagine, tu fais un régime et ça fait 3 mois et t'as perdu 100 grammes. Oui. Donc là t'es un peu découragé. En revisualisant le pourquoi tu veux faire ça et en t'y attachant vraiment très très fort, c'est ça en fait qui va te remettre sur les rails, qui va te remotiver pour continuer. Alors que quand tu fais ça pour faire plaisir aux copains ou pour faire comme les copains, tu sais, les gens au Nouvel An, on va tous se mettre à faire du jogging. Ouais, super. Donc vous êtes 3 potes, tout le monde part à courir et puis au bout de 2 semaines, il n'y a plus personne. Parce que c'est juste, il n'y a pas une motivation profonde, c'est juste pour faire comme les autres. Et ce n'est pas une motivation suffisante pour que dans la durée, ça marche. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions et donc dans l'article, y poser quelques questions. C'est vraiment, qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que ça va changer vraiment dans ma vie? Pourquoi j'ai vraiment envie de faire ça? Et puis se poser plein de pourquoi pour vraiment aller à la racine. Dans l'industrie, il y a la règle des 5 why, le 5 why, vous avez peut-être déjà entendu parler, où quand on a un problème, on pose 5 fois la question pourquoi, jusqu'à trouver la racine, en fait, d'un problème. Mais là, c'est un peu le même principe. Et des fois, c'est très, très difficile, quoi. Mais quand on a vraiment trouvé le pourquoi on veut faire ça, la prise de l'habitude est beaucoup plus simple. Et du coup, on a moins de résistance au changement.
Alors, la sous-question par rapport à ça, c'est est-ce que tu fumes encore?
Oui, parce que moi, j'ai pas trouvé encore le bon pourquoi pour la cigarette. Okay. Mais par contre, j'ai travaillé sur tout un habitude, et notamment une des habitudes que j'avais, une mauvaise habitude, qui était de dormir extrêmement peu. Pendant un certain nombre d'années, donc je me couchais extrêmement tard et je me levais très très tôt, et un jour je me suis dit bon, il faut vraiment que je change parce que je me sentais extrêmement fatiguée, à bout de nerfs, etc. Et puis j'ai vraiment essayé de trouver tout dans le pourquoi je voulais faire ça et qu'est-ce que j'allais imaginer que ça allait m'apporter, de bien le visualiser, et petit à petit, parce que ça a pris quand même un certain nombre d'années, et j'ai traqué et je traque toujours mes progrès, j'arrive à pratiquement dormir maintenant entre 6h30 et 7h par nuit, quand j'étais à 4h30 il y a 3 ou 4 ans, tu vois, ou 5 ans. Donc j'ai bien progressé. Mais là, pareil, j'ai vraiment identifié pourquoi, les conséquences que ça pouvait avoir réelles au quotidien sur moi d'être aussi fatiguée ou de dormir aussi peu, qu'est-ce que ça allait pouvoir apporter, et puis en réfléchissant comme ça, je suis vraiment arrivée à pourquoi je voulais changer, quoi.
Fait que si on fait une conjonction de ton point et du mien, si on trouve le pourquoi, le bon pourquoi, et qu'en bout de ligne, ça nous apporte quelque chose, ben là, le changement de vie, le changement pour la vie personnelle, il va être juste bénéfique. Excellent truc. En termes de changement, j'ai essayé de trouver des podcasts sur le sujet, assez inspirants. J'en ai trouvé un qui est britannique, qui me force à comprendre l'anglais d'Angleterre, parce que j'ai beaucoup de facilité avec l'anglais canadien et l'anglais américain.
C'est pas ça.
J'en ai par contre, l'anglais d'Angleterre est absolument pénible. Alors, j'écoute le Changeability Podcast, qui est quand même un podcast excessivement bien produit, excessivement bien fait. Là, ils en sont rendus à près de du 100e épisode qui arrive bientôt. C'est mm-hmm. un podcast sur toutes sortes de life hack. Nous, on appelle ça du life hack, mais c'est plus du développement personnel. Vous allez avoir le comment mesurer le succès, vous allez avoir le changement et ainsi de suite. Allez l'écouter. C'est un super fichu de podcast qui a gagné le meilleur podcast l'année passée d'Angleterre. Alors, c'est pour dire, c'est un saut de qualité. Alors, pour ce qui est des changements personnels et professionnels, c'est quand même une bonne référence si vous avez de la facilité avec l'anglais d'Angleterre.
C'est bien de travailler les différents accents comme ça avec les podcasts. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça et c'est très pratique.
Oui. C'est juste l'anglais ma seconde langue. Toi, je sais que tu as l'espagnol et l'allemand. Est-ce que tu en consommes aussi dans ces autres langues?
Oui, alors justement, avec mon nouveau travail, j'ai la chance de passer 3-4 heures dans ma voiture tous les jours. Et donc, quand je dis chance, c'est un petit peu sarcastique, hein, parce que c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé à la base. Et donc, du coup, j'écoute énormément de podcasts. Et comme du coup, j'ai moins de temps pour prendre, parce que j'avais commencé des cours d'espagnol et d'allemand. Enfin, j'avais repris des cours d'espagnol et d'allemand en début d'année. Là, j'ai un petit peu moins de temps, du coup, à leur consacrer. Mais j'ai trouvé des podcasts super intéressants en espagnol et en allemand. Donc, j'écoute ça dans la voiture. Donc c'est très bien.
Alors ça fait pratiquer. Ouais, c'est ça, c'est toujours le il y a d'ailleurs un sondage, les résultats de sondage qui sont arrivés qui ont été faits par Parlons Balado qui est un podcast québécois sur la balado diffusion en fait, le podcast et qui se focus là-dessus. J'ai eu la chance de participer à cette émission là, mais ils interrogent beaucoup de podcasteurs, même des Français, et ils ont fait un sondage sur ce qui est drôle, sur le lieu où vous écoutez le plus souvent vos podcasts, et sur plusieurs centaines de répondants, le véhicule revient énormément souvent. Alors c'est un bon moyen, en tout cas les transports, hein, dans les faits, reviennent très souvent. C'est un bon moyen de consommer des podcasts, mais aussi, et là je vais faire un lien, sur des livres audio. Et j'ai eu la chance, puis là, en toute transparence, j'ai eu la chance d'avoir une communication avec les gens d'Audible qui voulaient participer à l'Eclectic Show, et par la bande, ben, ils vont participer à ProductiveU et M'Optimise, parce que Audible va nous offrir la chance, va vous offrir aux auditeurs la chance de lire, en fait, d'écouter un livre. Alors, Audible, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez Audible, Michael, Priscille?
Oui, moi c'est quelque chose que j'utilise. Pourtant en France, les livres audio, c'est pas du tout quelque chose de développé. Mais j'ai eu la chance de passer un peu de temps aux États-Unis, donc de découvrir cette façon de consommer des livres aussi. Donc oui, j'utilise un petit peu Audible. J'ai pas d'abonnement continu, mais de façon ponctuelle, j'écoute des livres avec Audible.
Non, moi, j'ai jamais testé encore, mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, oui, j'ai reçu une promotion là dans ma boîte mail ce matin, donc je vais tester. Je suis un petit peu dubitative sur le coût du livre, mais bon, on verra.
Alors, Audible, ça s'écrit Audible. C'est une branche de chez Amazon qui a été rachetée par Amazon. Le principe, c'est d'avoir des livres en audio. C'est assez simple, ça vient avec une application qui est foutrement bien fait, qui permet de, pendant que vous écoutez, qui permet de prendre des notes, qui fait des pauses automatiquement, qui permet aussi d'accélérer un peu à l'image vous êtes habitué au podcast, un peu à l'image des logiciels de podcast. Alors c'est fait par Amazon, c'est bien fait, les prix sont assez concurrents, ils ont un abonnement que vous pouvez prendre qui vous permet d'avoir un livre par mois, n'importe quel prix, c'est des accumulations de crédits. Et puis pour ceux qui ont déjà des comptes Audible, vous allez avoir la chance d'avoir un livre, le livre dont on va parler tantôt. Alors les règlements, on s'en est parlé vite, ça va être de mettre à partir de la publication du podcast un bon commentaire sur iTunes pour ProductiveU, un 5 étoiles, hein. Les 4 étoiles, vous êtes hors du concours. Alors, un 5 étoiles sur ProductiveU sur iTunes, un 5 étoiles sur M'Optimise et un 5 étoiles sur l'Eclectic Show. Et puis, ben, on fera tirer ça avec les gens de chez Audible pour vous fournir ce livre-là en plus de ce que vous avez déjà. Alors, ça, c'était le bout de plug. En toute transparence, ils m'ont offert de participer financièrement à l'émission. Je préférais faire participer nos trois communautés en vous redonnant le bien de cette participation d'Audible. Vous nous direz si vous avez aimé ça. En tout cas, c'est un bon moyen de commencer à ça. Qui dit life hacking, on parle professionnel, on dit personnel. On va parler avec Michael avant les livres. On va parler de tech, parce que la tech gère beaucoup, beaucoup d'aspects de nos vies maintenant. Et toi, Michael, vas-y, c'est ton bout à toi de nous parler de tech, les changements au niveau de la tech. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs chez toi, des changements au niveau de la tech?
Il y en a pour moi au niveau de la tech parce que du temps de Nip Life, j'étais sur iOS, je m'étais laissé tenter par le OnePlus One que j'ai gardé pendant un an et demi, donc j'étais sur Android. Non, pas vraiment. C'était très intéressant de découvrir Android est suffisamment évolué pour pas être trop compliqué pour switcher de l'un à l'autre. Donc j'avais fait la bascule. Android est suffisamment avancé pour être utilisable facilement. Mais quand même, au bout d'un an et demi, j'étais quand même content de racheter un iPhone, de rebasculer vers l'iPhone. Ce qui n'empêche pas que j'ai pour l'instant encore mon OnePlus One. J'ai une tablette Amazon aussi sous Android. Donc je continue à utiliser un petit peu les deux.
Mais c'est bien vu le changement techno par le changement de système d'exploitation, parce que au fur et à mesure de nos forfaits cellulaires qui changent parce qu'ils finissent à échéance, le fait aussi que les appareils ont une durée de vie, on a besoin de changer. Puis j'avais pas vu cet aspect-là. En tout cas, merci d'en parler.
Donc après la bascule avec les systèmes actuels est relativement simple. Pour ce qui est d'un basculement d'Android vers iOS, maintenant il y a une application iPhone qui peut s'installer sur Android et sur le nouvel iPhone, et qui permet de transférer de façon automatique les photos, les SMS, les contacts et tout ce qui est marque-page. Donc on arrive à transférer la quasi-totalité des éléments qu'on a à transférer d'un téléphone à l'autre. Dans l'autre sens, d'iOS vers Android, la bascule est éventuellement un petit peu plus compliquée. Par contre, si vous utilisez déjà les services Google, c'est des choses qui vont se transférer facilement. Les contacts, s'ils sont déjà dans votre Gmail, ils arriveront à vous rentrer votre compte Gmail dans l'iPhone. Vous lui dites rapatrier les contacts et il va rapatrier les contacts. Donc là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Pour ce qui est des applications, on arrive à trouver les mêmes applications développées sur les deux plateformes ou des applications proches. Point important, quand on bascule de iOS vers Android, il faut désactiver iMessage pour pouvoir bien avoir les SMS qui fonctionnent et les gens qui sont sur iPhone, qui vous envoient des messages. Ça évite de les envoyer dans le vide, dans iMessage. Ils vous enverront un SMS, donc il y a des choses à bien faire attention.
Puis un petit truc pour voir la différence de iMessage versus un vrai SMS. Quand vous avez un iPhone, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous envoyez un message, votre message est bleu quand vous l'envoyez par iMessage. Tandis que quand il est envoyé en vert, ça veut dire que vous l'avez vraiment envoyé en SMS, qui est le langage universel des téléphones pour les messages entre téléphones. Alors, bon truc. Moi, effectivement, iMessage, j'aurais pas pensé le désactiver en faisant un transfert.
Voilà, ça fait partie des petites choses. Après, pour ce qui est de Windows Phone, j'avoue que j'ai pas trouvé grand chose pour aider à basculer de l'un à l'autre, ou de Windows Phone vers Android ou iOS, ou dans l'autre sens.
Moi j'ai pas pu basculer de l'un à l'autre, si tu veux, puisque quand tu quittes une société, on te coupe ton numéro et ton téléphone.
Oui, c'est du professionnel.
Donc on te coupe ton téléphone et tu peux pas le garder en attendant d'avoir démarré chez l'autre. pour transférer tes données. Hein. Là, ça marche beaucoup moins bien. Non, donc du coup, c'était, j'ai perdu pas mal de choses, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Mais non, mais sur le Windows Phone, enfin moi, je trouve pas déjà beaucoup d'applications qui vont bien, même des trucs de base. J'utilise Waze le matin pour trouver le chemin le plus court ou le plus rapide. Vous savez, l'application GPS pour les bouchons et tout ça. Je l'ai testé, je l'ai utilisé pendant des années sur Android et sur iOS sans aucun problème. Dans Windows Phone, ça bug toutes les minutes, ça va pas, ça se met pas à jour. J'ai discuté avec mes collègues pour leur dire c'est peut-être mon téléphone, ils m'ont dit exactement la même chose. Tout bête quoi, l'application pour aller au ciné, pareil, ça marche pas, la carte, le truc, le bidule, enfin ça. Donc moi ça me découvre, j'ai même plus envie d'essayer d'installer de nouvelles applications si tu veux parce que ça marche vraiment pas comme sur les autres téléphones quoi. Il y a plein de choses que ça va pas bien quoi. Ça va pas bien. Donc du coup je fais comme Matt m'a dit, je mets rien dessus. Donc du coup je suis hyper productive toute la journée parce que de toute façon je n'ai rien. Hein, voilà, que les mails et le téléphone.
Mais c'est quand même l'essentiel. Les SMS, les emails, c'est quand même la base. C'est sûr que l'agrément d'avoir des applications comme Waze après serait très intéressante, mais malheureusement, oui, c'est pas la plateforme qui a le plus d'avenir en ce moment, malheureusement. A été très très bien partie, beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette plateforme-là, mais non, c'est un peu dommage, c'est l'anti-exemple. Mais par contre, on peut au moins avec des applications, si vous êtes pas natif. Puis là, je m'explique, là, si vous n'êtes pas natif au exemple, au rappel de iOS, mais que vos rappels, vous les mettez dans un autre logiciel, ben là, vous pouvez y accéder à partir d'une autre plateforme. Exemple, si vous mettez vos listes de choses à faire dans Evernote,
par exemple,
ben vous pouvez au moins switcher beaucoup plus facilement.
C'est vrai.
Et après, voilà, après, il y a toujours la possibilité d'utiliser les versions web. De certains services aussi pour se faciliter la vie. Et voilà, après en changement de logiciel ou de plateforme de Mac, de Windows, voire Linux, voilà, l'avantage maintenant c'est qu'il y a beaucoup de services qui sont en ligne et donc on peut continuer à les utiliser quelle que soit la plateforme. Office, maintenant il y a des versions en ligne, Google Docs c'est en ligne, nos emails c'est des webmails, Evernote il y a aussi une version en ligne, même si on n'a pas forcément autant de fonctionnalités sur les versions en ligne que sur les versions installées, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Et après certains logiciels nous permettent de transférer les données de l'un à l'autre. Je sais que typiquement toi Matt, t'as fait la bascule de Evernote vers OneNote de façon un peu automatisée.
Ouais, c'est ça. Alors il y a des outils, quand ça commence à être assez populaire, il y a des outils qui sont faits par les grandes firmes pour faire les changements. Dans le cas de Evernote vers OneNote, moi j'ai eu un outil pour le faire, ça m'a tout bien rapatrié. Je dirais à 95% ce que j'avais dedans. C'est vrai que maintenant, avec le fait qu'on a des tablettes, le fait qu'on a des téléphones, des portables, des ci, des ça, on commence naturellement à privilégier des services web-based, des services directement en ligne. Alors, des webmails, avant, on avait typiquement nos courriels directement sur, je sais pas, Outlook Express ou encore au niveau professionnel, ça existe encore énormément. Tend à changer. Beaucoup, beaucoup d'entreprises chez nous changent pour Office 365 ou l'application Google Apps pour avoir des choses web-based parce que ça devient de plus en plus simple. Cela dit, il y a toujours un aspect cloud de sécurité qu'il faut faire attention au niveau personnel puis professionnel. Mais c'est vrai que l'arrivée de tous ces services-là, en fait, l'arrivée de la multitude d'appareils qu'on utilise maintenant fait gagner par la bande en popularité à tous les services web-based. Et puis ben là, typiquement, on parle de gestion de fiches et de rappels et de choses comme ça que j'utilisais dans Evernote, que maintenant j'ai dans OneNote. Mais il y a aussi beaucoup d'outils pour rapatrier, exemple, tous vos courriels que vous aviez directement dans Gmail ou dans Outlook. Il y a beaucoup, beaucoup de produits qui vous aident maintenant pour faire ces migrations-là. Pour faciliter votre travail, c'est sûr qu'un outil web-based, c'est vraiment, comme dit Mika, le plus simple pour pouvoir switcher après ça de plateforme. Et quand on dit changer de plateforme, c'est pas pour le plaisir de changer de plateforme. des fois, Mickaël, tu vas peut-être l'aborder, mais des fois, au niveau monétaire, c'est un gros avantage de pouvoir avoir la latitude de changer quand on veut. Exemple, un forfait cellulaire qui est plus aussi avantageux et on veut switcher pour une autre compagnie, ben, si on n'a pas mis les pieds directement dans les services qu'offrait cette compagnie-là, puis qu'on a été comme un petit peu distant, ben, on n'est pas pieds et mains liés. Exemple, si vous aviez vos adresses de courriel chez Orange et puis que vous vouliez changer pour Free, ben là, vous êtes un peu emmerdé parce qu'il faut rappeler à votre liste de contacts tout ce que vous avez changé, tandis que si vous aviez déjà Gmail, ben là, vous êtes un peu plus indépendant. Pareil pour si vous consommez du Netflix, et ben quand vous changez de fournisseur de télévision, ben vous n'avez pas besoin de rapatrier tous ces services-là. Vous êtes sur Netflix, que vous soyez chez Orange, chez Free, chez Vidéotron, chez nous ou chez Bell. Alors c'est vrai que c'est super intéressant de changer pour apprendre un oui soit, mais aussi pour avoir des avantages monétaires. Moi, ma question que je voulais aborder, nous, les techs, les geeks, les nerds, on aime ça changer pour apprendre de nouvelles choses. Mais en bout de ligne, je me rends compte, moi, personnellement, est-ce que c'est si important de changer si l'outil fait ce qu'il a à faire? Des fois, je me rends compte que j'ai changé Evernote pour OneNote juste parce qu'il y a une philosophie qui me plaisait pas d'entreprise. Mais en bout de ligne, suis-je plus performant ou moins performant? Ben, je dirais moins parce qu'il faut que je refasse mes repères et ainsi de suite. Est-ce que vous partagez un peu ça?
Ah oui, complètement. Priscille? Alors moi, j'évite de changer au maximum les outils quand ils marchent bien. Alors quand ils marchent pas, je me pose pas de questions. Je vais forcément essayer de trouver quelque chose de bien, ou de mieux en tout cas. Mais quand j'ai un système qui fonctionne, je vais pas essayer de changer pour le plaisir de me dire j'ai essayé le nouveau agenda truc, j'ai essayé une nouvelle application machin. Oui, c'est sûr, c'est sympa, mais à la rigueur, je vais aller lire la critique, je vais peut-être aller voir une vidéo qu'en parle. Mais de là à me dire l'installer, je vais passer des heures à tout réapprendre, des heures à tout retransférer mes données, parce que la courbe d'apprentissage, mine de rien, c'est quand même du temps perdu. Et pour moi, c'est l'inverse de l'efficacité, quoi. Si on a un vrai besoin parce que ça marche pas, évidemment, faut le faire. Si c'est juste pour se dire j'ai le dernier truc, personnellement, en tout cas, ce qui me concerne, ça n'est pas du tout utile et je le fais pas.
Tout à fait, Mickaël. Toi, est-ce que tu l'abordes comme ça ou tu es toujours assez geek comme moi et tu veux toujours le dernier logiciel qui vient de sortir?
Ouais, moi je suis plutôt geek, j'ai plutôt tendance à essayer beaucoup de choses. Par contre, je me rends compte que même en essayant, je switch pas beaucoup au final. Donc ça me prend quand même du temps, mais c'est amusant parce qu'on apprend des choses. Mais je me rends compte que je suis toujours sous Gmail et que je suis pas passé sous la nouvelle version. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, la version
Inbox.
Voilà, Inbox. J'ai testé Inbox, mais au final, j'ai pas accroché, donc je suis resté sur quelque chose de classique. Et pour l'instant, typiquement, je suis encore sur Evernote et des choses comme ça. Donc oui, je teste beaucoup de choses, mais au final, dans un usage vraiment quotidien, j'aime bien garder mes repères et garder des logiciels que je sais utiliser de façon efficace quand j'ai besoin de m'en servir vite. Et de ne pas perdre une demi-heure ou une heure quand il y a une fonction que je n'arrive pas à trouver.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut absolument que le gain de productivité soit assez élevé pour changer? Ce ne serait pas le truc le mieux pour dire « Ah, là, je switch », c'est trouver le gain de productivité tellement fort
Alors,
qu'il faut
moi,
le changer?
Moi, je ne parlerais pas de productivité parce qu'à la base, tu ne le sais pas. Moi, je dirais que c'est plutôt par rapport à des attentes qu'on a pour telle ou telle application. À l'utilisation qu'on a, être bien sûr de quelle utilisation on veut faire avec telle application, ce dont on a vraiment besoin, mais au quotidien, pas le truc qui serait le must-have, tu te sers une fois jamais, quoi. Et puis, une fois qu'on a trouvé une application, effectivement, ça va valoir le coup de changer pour avoir une application qui va répondre à ces critères. Mais il faut déjà bien analyser les critères de recherche, être sûr de ce qu'on veut, et puis, et c'est après parce que cette application va répondre à nos besoins, qu'on va développer la productivité. Mais à la base, tu peux pas, à mon avis, présumer tout de suite comme ça, avant d'avoir un petit peu testé
de la productivité.
Ouais. D'où l'intérêt, effectivement, d'essayer un petit peu, deux, trois trucs, et puis là, on va se dire, bon, bah, effectivement, il y a tel avantage, je vais pouvoir faire ci, et là, je vais gagner. Mais à la base, tout de suite, en démarrant, je suis pas sûre qu'on puisse tout de suite imaginer, parce que c'est souvent l'utilisation qui va nous faire développer des trucs, des raccourcis, des petites choses qui vont nous donner la productivité.
Je retiens deux trucs que vous venez de dire qui sont assez importants pour rester dans la geekitude où je suis. C'est soit aller voir des articles ou des vidéos qui expliquent le nouveau logiciel, ou soit l'installer, mais sans forcément tout switcher. Je pense que je vais régler mon problème de dépendance à la
nouveauté.
Parce que c'est un réel, c'est un réel problème pour moi. Hein. Je suis drogué à la nouveauté et je veux absolument toujours tout essayer la nouveauté. Et en bout de ligne, je me rends compte que je suis vraiment, vraiment, vraiment à faire de la perte de temps. Mais j'apprends.
Mais moi, je regarde des sites internet qui me donnent des trucs comme ça, qui me font connaître des nouveaux logiciels. Et puis comme ça, je me rends compte un petit peu de savoir si c'est utile pour moi. Notamment, je vais voir d'Autotech. Ouais, d'autotech.com, là, il essaye tout ce qu'il y a possible et imaginable qui sort. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert du reste Evernote, Asana, un certain nombre de choses. Donc, outre le fait, c'est effectivement qu'il explique tout un tas de logiciels. Et puis aussi de produits, hein, de téléphone, de choses comme ça, de smartphone. Donc, c'est plutôt pas mal. Il montre aussi comment ça fonctionne vraiment. Donc, on peut vraiment avoir une bonne idée déjà de l'outil avant de se lancer soi-même. On a plein d'autres chaînes vidéo YouTube, hein, qui font la même chose, où t'as tout un tas de geeks, là, qui montrent ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont reçu, comment ils utilisent. Et moi, je fais déjà un premier screening avec ça.
Dodotech, t'écris ça comment?
dotech.com. Je l'avais mis dans les notes.
Super. Ouais, ah oui, ouais. Désolé.
Et je pense que de toute façon, voilà, ce côté recommandation, si on n'a pas de personnes plus geeks que nous dans notre entourage, voilà, aller voir des sites de référence et avoir des podcasts ou des personnes sur YouTube en qui on a confiance, c'est sûr que ça aide, hein, en recommandation pour acheter ou pour installer des nouveaux services.
Très très très
et alors,
bon.
Et sinon
truc.
Après, pour gagner du temps, quand on a vraiment trouvé un logiciel et qu'on veut l'apprendre assez rapidement, moi j'utilise un site américain qui s'appelle lynda.com. lynda.com. Ils ont tout un tas de formations. Alors, c'est un site payant, mais c'est pas très cher, avec tout un tas de logiciels différents et très récents la plupart du temps. Et ce qui fait que pour une prise en main rapide, c'est plutôt bien, avec des petits exercices à faire et tout ça, c'est vraiment très sympa.
Et puis les formations, c'est les prix, ça varie.
Écoute,
de quelques centaines d'euros.
Tu t'abonnes et de mémoire, l'abonnement de base qui est déjà... Enfin, où tu peux faire toutes les formations que tu veux, mais tu dois avoir deux, trois petites options qui sont pas activées, ça doit être quelque chose comme 20 € du mois.
Ok. Fait que c'est quand même assez oui. abordable pour voir plusieurs formations. Et puis, lynda.com vient de sortir, pour ceux qui ont des Apple TV, viennent de sortir leur application sur l'Apple TV. Alors, dans le confort de votre salon, avec le popcorn sur les genoux, vous pouvez apprendre des choses.
C'est magnifique.
La vie, quand même. Bon, alors, on en est rendu à l'étape... slash inspiration livre, le livre dont je vous parlais tantôt, que vous allez pouvoir gagner si vous mettez des 5 étoiles sur iTunes, sur Productive View et M'Optimise et Eclectic Show. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé en faisant une recherche simplement sur Amazon. Ça s'appelle « Qui a piqué mon fromage » ou « Comment s'adapter au changement au travail, en famille et en amour ». Alors, je pense que vous l'avez écouté
oui.
ou lu tous les deux. Alors, comment décrire ce livre-là? D'abord, Michael, est-ce que tu le... Michael et Priscille, l'avez-vous aimé, l'avez-vous apprécié?
Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'aime bien le côté on nous raconte une petite histoire et il y a un deuxième sens, voire un troisième sens derrière.
Alors moi, j'ai bien aimé le côté fable aussi qui raconte un peu tout ça. J'ai moins aimé la partie de la fin où t'as le groupe d'amis qui débriefent un peu de leur vie et de ce qu'ils peuvent en retirer par rapport à l'application de la fable. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment, je sais pas, capillotracté, tiré par les cheveux.
Oui.
Enfin, ça faisait énorme, quoi, si tu veux. C'est comme si on n'arrivait pas nous-mêmes à se l'appliquer. Donc, je sais pas si je suis claire, mais j'ai moins aimé cette partie-là. Mais sinon, la fable en elle-même, effectivement, c'est vraiment bien trouvé, bien tourné. C'est très rapide à lire, en plus, ce livre.
Donc,
c'était vraiment, vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on retrouve autour dedans, on arrive déjà à situer dans quel personnage on va être. Un peu entre guillemets. Et puis, pour ceux qu'on n'est pas, on identifie des gens de son entourage, on dirait celui-là, il serait bien là, celui-là, ce serait bien celui-là. Donc, c'est assez drôle.
Alors, je vais reprendre un terme que Michael avait mis dans les notes de l'émission. C'est très métaphorique et c'est effectivement ça. C'est pas un livre ou un audiobook qui va vous donner des trucs concrets. C'est plutôt une fable qui va vous donner, qui va vous mettre le nez dans des façons de réagir qu'on peut avoir dans la vie en général. Alors, pour faire court, ce livre-là s'adresse à qui? À tout le monde, et même les enfants, parce que c'est une fable. En audio, vous allez avoir un fun incroyable, un plaisir incroyable avec vos enfants à l'écouter en voiture en même temps. C'est rare qu'on puisse avoir... un document, un podcast ou un livre audio qu'on peut partager en famille. Ça, d'abord, ça va être un grand plaisir de l'écouter peut-être en famille. Je vous dirais que de la minute que les enfants sont en âge de comprendre, vous allez pouvoir, je dirais 5-6 ans, vous pouvez commencer déjà à écouter ça avec eux. Alors, qui a piqué mon fromage? Évidemment, le fromage, là-dedans, fait référence à ça symbolise les objectifs de chacun. Alors, grosso modo, sans trop raconter l'histoire, c'est l'histoire de deux souris et de deux minigus. Je savais même pas c'était quoi des minigus. Les minigus, c'est des êtres humains semblables aux humains, mais petits. Alors, les souris s'appellent Flair et Flèche, et les minigus s'appellent Polochon et Baluchon. Vous voyez un peu, ça s'adresse un peu la métaphore, ou en tout cas l'aspect enfantin, fable que ça peut avoir. Et ces gens-là sont pris dans un labyrinthe et tous les jours doivent aller dans le labyrinthe pour aller trouver leur nourriture. Leur nourriture qui est leur objectif de vie, c'est une métaphore pour ça. Et puis, vous allez voir dans l'histoire, parce que je veux pas trop en dire non plus, mais dans l'histoire, à un moment donné, ils arrivent à un endroit où ils ont tout
tout le fromage.
Exactement, ils arrivent à tout le fromage, et puis vous allez voir les quatre traits de personnalité qu'on peut avoir, c'est-à-dire ceux qui se complaisent et puis qui vont être très très dans le fait que c'est à eux autres, ça leur appartient, ça devrait toujours être comme ça. Alors les gens qui sont réticents au changement, vous allez le voir par cette fable-là. Ça va vous mettre le nez très très loin dans vos perceptions, et puis des fois ça peut confronter. C'est ça qui est assez drôle, des fois à travers une fable comme ça, vous allez être confronté. C'est un peu comme le lièvre, la tortue, des choses comme ça qu'on va retenir très bien, puis qu'on va être capable de ressortir quand des moments de vie que vous allez voir. Il y a beaucoup de phrases intéressantes là-dedans, des belles citations, des phrases comme des phrases du genre que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Ça, c'est vraiment une phrase qui est intéressante par rapport au changement, parce que bien souvent le changement, ce qui nous freine à changer ou à évoluer ou à modifier certaines, ben c'est la peur.
J'ai bien aimé cette phrase, enfin cette question, mais il y en a plein d'autres et tu vas sûrement en parler. Parce que c'est un exercice qu'on fait en principe quand on doit travailler sur le changement, dans les gestions de changement, de lister en fait les peurs qu'on pourrait avoir par rapport à ce changement, et puis après de prendre un peu de recul et de se dire quelle est la probabilité que tout ça arrive, quoi. Parce qu'on se raconte des histoires à chaque fois dans le changement, et dans le cerveau là qui est en ébullition, et puis on se raconte des scénarios catastrophes. Mais quelle est la probabilité que ça arrive? Et souvent, de prendre un petit peu de recul, de l'écrire vraiment sur du papier, tu sais, les peurs qu'on a. Et après, de prendre un petit peu de recul, on se dit, bon, bah, c'est bon, là, j'exagère.
Alors, on appelle ça des j'ai un terme, je vais le retrouver en parlant, mais c'est vrai, on se monte toutes sortes de scénarios, et puis on se drogue à ça, hein. On n'endort pas, on vient qu'à notre vie est toute chamboulée, on mange plus, et ainsi de suite. C'est vraiment le stress du changement, des fois, peut être très, très, très important. Et puis, on peut tenir mordicus à ne pas changer. Vous allez voir dans l'histoire, vous allez l'écouter, vous allez, les minigus, tiennent mordicus à ne pas changer. À un moment donné, il y en a un qui change, puis vous allez voir dans l'histoire, c'est là la quintessence de l'histoire, c'est que on apprend parce que finalement ils ont changé. Et puis vous allez voir aussi là-dedans. Et puis ça, c'est l'aspect où je trouve que c'est un peu trop rose là, qu'on décrit les gens qui ont un instinct puis qui changent tout le temps, comme on valorise beaucoup ça dans l'histoire. C'est peut-être là où je mettrais peut-être un petit bémol, où faut en prendre puis en laisser. Mais l'histoire est super intéressante. Écoutez-la avec vos enfants. Les points qui reviennent, le changement est inévitable. De se préparer au changement, c'est important. D'anticiper les changements. T'sais, des fois, il y a des gens qui sont pas capables d'anticiper les changements. Ben, dans l'histoire, vous allez remarquer que ça a été important pour ça. Alors, c'est des choses que vous pouvez apprendre personnellement, vos enfants aussi. L'importance de s'adapter rapidement, parce que plus on s'adapte rapidement, plus généralement on va être capable de l'adaptabilité, hein, dans les changements, ou bien dans la vie, ou bien dans nos sociétés de maintenant, est essentielle. On en parlait au niveau professionnel. Mon grand-père a fait deux métiers. Mon arrière-grand-père n'en a fait qu'un. Mon père en a fait trois ou quatre. Moi, je suis rendu à mon âge, à 4-5, que j'ai déjà changé. Je dis pas que je valorise ça. Un médecin peut commencer et finir médecin. Mais dans nos sociétés, avec les changements technologiques, avec les changements de sociétaux et ainsi de suite, ben, vous aurez peut-être pas le choix. Alors, l'importance de s'adapter rapidement, d'être malléable, et surtout, ben, comme disait Priscille, des bons trucs, d'adapter son cerveau, d'écouter toutes sortes de choses, d'autres langages, et ainsi de suite, pour adapter, pratiquer d'être malléable.
Malléable. D'ailleurs, moi, j'ai écouté l'histoire en anglais, donc c'est rigolo de voir le.
Ouais.
Même les noms des personnages ont été un petit peu changés et modifiés entre le français et l'anglais.
Et puis, nous, au Canada, au Québec, on n'a pas de cocorico. Nous, c'est le castor. Puis, je ne sais pas quel bruit il fait, parce qu'en France, quand on dit « Ah, ben, c'est français, cocorico », au Canada, je ne pourrais pas vous dire quoi que ce soit, mais je pourrais gruger un bout de bois, mais ça ne ferait pas de bruit. Mais dans la version française de Audible que vous allez avoir, ou que vous allez peut-être gagner, ou que vous allez écouter, beaucoup d'acteurs québécois qui font les voix. Alors, c'est assez bien, j'allais pas dire scénarisé, mais c'est assez bien produit. Une autre phrase qui est assez importante, sois toujours prêt à repartir pour profiter pleinement de la vie. C'est parce qu'une fois qu'on a fait le changement, ou une fois qu'on a décidé qu'on allait, la vie, c'est important d'en profiter, puis d'en profiter pleinement dans ces changements. Une fois qu'on a fait le changement, faut en profiter du changement. Faut découvrir les aspects positifs. Si vous avez appliqué tous les trucs que Priscille venait de vous dire, il faut le profiter, il faut y goûter. Et puis ça, c'est important. Alors, effectivement, qui a piqué mon fromage, c'est un peu simpliste, mais comme je lis une critique qui est intéressante sur Amazon, paradoxalement, c'est ce qui explique le succès du livre. C'est que c'est simpliste, fait que c'est très, très accessible à tous, et vous allez quand même aller... Vous allez sûrement ressortir quelques éléments intéressants pour en discuter, peut-être avec vos enfants ou peut-être avec vos collègues de travail. 100 pages en format livre et format audiobook, c'est 1h30, pas plus que ça. Alors, vous allez voir, c'est l'équivalent d'un podcast. Alors, évidemment, pour participer, pour pouvoir avoir la chance d'avoir, nous, on va piger, nous trois ensemble, on va piger les meilleures critiques, et puis, une note positive dans iTunes, une note positive dans Moptimist, puis une note positive pour l'Eclectic Show dans iTunes. Et puis, ceux qui ont fait les trois, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de chance. Hein, on va dire ça comme ça. Alors,
c'est sûr. Oui.
Priscille, tu avais une petite citation intéressante. On aime bien finir les podcasts avec une citation qui nous fait réfléchir en plus d'un livre. Et quelle est-elle?
Alors, c'est de Héracle, et il dit « La seule chose constante, c'est le changement. »
C'est vrai. C'est vrai, parce que si vous pensez, puis de plus en plus maintenant, en tout cas pour moi ça me parle beaucoup, ce qui va être constant dans votre vie, c'est que rien ne va être constant. C'est qu'il va toujours avoir des changements. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez avoir des enfants, vous allez vous en rendre compte à l'école, vous allez vous en rendre compte à tout âge. Il n'y a rien de plus constant que de s'adapter ou de changer. Toi, Michael, ça te parle? Priscille, ça te parle de quel sujet?
Ah oui, mais c'est clair que le changement, c'est un. Enfin, moi, ça, en plus de ça, je dois peut-être pas être tout à fait câblé normalement, mais j'adore ça. J'adore le changement, et c'est au point où, quand j'ai l'impression que j'arrive dans une petite routine, je m'ennuie et il faut que je fasse tout pour que ça change, en fait. Donc c'est peut-être pas très bien non plus, hein, parce qu'on a peut-être besoin d'un peu de stabilité. Mais c'est vrai que pour moi rien n'est jamais acquis et spontanément, je pense que pour évoluer, il faut toujours apprendre et apprendre, c'est accepter de changer, de laisser ses illusions, ses acquis d'avant et puis d'avancer sur quelque chose de nouveau. Et comme tu le dis, c'est dans tous les domaines. Et quand on a les enfants, forcément, puisque les enfants, par définition, ça grandit, ça change et puis il faut sans arrêt jongler, se réadapter, faire des nouvelles choses. C'est l'essentiel aujourd'hui.
De façon assez amusante avec les enfants, ça nous oblige à changer beaucoup de choses, à changer en fonction de leurs âges. Mais eux, de leur côté, sont très attachés à avoir des rituels, à avoir des choses, des choses plus permanentes sur lesquelles ils peuvent se raccrocher. Parce que ils sont à un âge aussi où ça change, où tout change en permanence. Ils sont en permanence en train d'apprendre. Donc on a les deux aspects de il y a des changements, il y a des apprentissages en permanence et il faut se raccrocher à certaines choses, ne serait-ce qu'à nos croyances qui elles ne changent pas forcément ou changent peut-être un petit peu moins vite que le reste de la vie.
Mais tu parles des structures et des choses stables pour les enfants, mais je pense que c'est nous aussi, je pense qu'on fait plus facilement face aux changements dans notre vie si on a quand même certaines choses auxquelles on peut se raccrocher, des choses qui sont quand même assez fiables, que ce soit de la structure, que ce soit des habitudes ou même des routines, parce que le reste va changer, mais on a au moins quelques repères, parce que si tout explose en même temps, c'est plus compliqué. C'est vrai pour les enfants, comme tu l'as dit, mais je pense qu'à l'âge adulte, c'est vrai aussi.
Effectivement. Écoutez, c'était un réel plaisir d'aborder ce sujet-là du changement avec vous deux. J'ai vraiment beaucoup appris. C'était très intéressant et puis très gratifiant de pouvoir avoir la chance de faire un podcast avec vous deux. Si on veut continuer à discuter du changement avec vous, comment on peut le faire, Priscille?
Alors, sur mon blog productiveview.com, sur Twitter productiveview, Facebook productiveview. Voilà.
Michael, quant à toi, on te retrouve où?
C'est un petit peu la même chose. Donc, il y a un site moptimise.com avec un M au début. Un compte Twitter également, moptimise. Il y a également un Facebook, même si je suis pas forcément très, très actif sur Facebook.
Et puis
et pour toi, Matt.
Pour moi, c'est Eclectic Cast, vous sur Twitter, prof du web un peu partout sur les médias sociaux et dans le Google, dans les intertubes. Mais je veux juste faire une aparté, Michael. Moi, j'aime beaucoup les mots français, les nouveaux mots français, de par mes émissions, de par ce que je fais. Et puis j'ai vraiment raffolé du terme m'optimise parce que toi, t'as décidé que t'imposais un nouveau terme français pour du life hacking. Explique en 2 minutes.
Voilà, il n'y a pas de traduction vraiment pour life hacking. Et moi je trouve que c'est une optimisation de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que le terme m'optimise, c'est j'optimise ce que je fais pour changer un petit peu. Mais on est sur de l'optimisation, on n'est pas sur des changements complets.
Écoutez, podcasts.
C'est le principe du life hacking.
Ouais, exactement. Deux podcasts vraiment incroyables à écouter. Productive You, qui est maintenant rendu à une quarantaine d'épisodes.
Oui, je viens de passer les 1 an. au mois de mai. Donc là, voilà, on attaque la deuxième année. Et puis, merci encore d'ailleurs du très charmant message que tu m'as envoyé. Ça m'a beaucoup touchée.
Et puis, Productive You, c'est un must pour pas seulement pour la gente féminine, pour les hommes aussi. Allez, écoutez, M'Optimise, c'est un classique maintenant, hein, rendu à combien d'épisode? Sixième, septième?
Huit.
Alors, tu vois, vraiment un podcast sur le life hacking aussi. Alors, ne manquez pas ces deux superbes épisodes-là. J'espère qu'on vous a donné le goût au changement. J'espère que cette émission-là vous a donné le goût à écouter des podcasts, des livres audio. On vous remercie de l'écoute. Allez, ciao, bye-bye.
À bientôt, bye-bye.
À bientôt.
Canada. What's with Canada? We got great big cities, but a lot of trees and rocks. Yeah, the winter's cold here, wear two pairs of socks. There's half the world's fresh water to paddle your canoe, or camp along the shoreline. It's what we like to do in Canada. Ooh, I'm living in Canada. Float my boat in Canada. Oh, bait my hook in Canada. We tend to do things different. We each have our routine.